Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Et nous y sommes, 7h08, nous sommes bien le 18 octobre 2020 et c'est parti pour votre week-end des experts auto. Votre auto avec Jean-Luc Moreau à mes côtés pendant 3 heures. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Ah oui, vous avez du mal à démarrer là. Vous
êtes, non.
Attends, c'est GPL, un peu, là, vous êtes en diesel.
Un peu de suspense quand même.
Le diesel de la Fuego, vous savez, qui avait le petit voyant rouge.
Le préchauffage qui durait 15 secondes. Ouais, on a l'impression que ça durait 2 ans d'ailleurs.
J'ai l'impression que vous êtes un peu en préchauffage ce matin.
Non, pas du tout.
Tout va bien. Ça va ?
Oui.
Mais ouvrez les yeux alors pour voir.
Ah, c'est mieux, non ? Ah bah oui.
C'est plus sympa. Alors,
je vois pas beaucoup mieux, mais j'ai ouvert les yeux maintenant.
Et oui, donc ça va pas être triste ce dimanche matin, les amis. Jusqu'à 10h, Jean-Luc est là. Enfin, est là, en tout cas physiquement, corporellement. Je ne sais pas si son intellect est là, mais vous pouvez en tout cas essayer de le stimuler au 3216 pour poser toutes vos questions. 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Votre numéro de téléphone avec votre question. On peut vous rappeler dans la foulée, Amina est là, Gilles aussi, et Kevin qui est aux manettes, mesdames, messieurs. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Au menu, tout à l'heure, on reviendra sur cette volonté du gouvernement donc d'accélérer le déploiement de la mobilité électrique. C'est une bonne nouvelle quand même, Jean-Luc Moreau.
Bon, ça, c'est
sapristi.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle, mais il y en aura une mauvaise. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, il y a toujours un pendant. C'est qu'on va réintroduire sans doute le malus sur le poids des véhicules. Bon, au-dessus de 1800 kg et plus 1400 kg, et les véhicules hybrides et électriques ne seront pas.
Ah, quand même
ouais.
Parce qu'on en parlait il y a quelques temps de ça, c'était une hérésie en fait.
C'était totalement ubuesque.
Bon, d'accord.
Bon, là, cela dit, on va voir que la mesure en elle-même est pas va pas forcément dans le sens souhaité, c'est-à-dire le sens de moins de pollution.
C'est ça.
Parce que l'anti-pollution sur un véhicule thermique, ça pèse lourd.
On évoquera le GPL qui est en train de revenir au top. Les phares laser, ça sera notre bon plan sécurité. L'actu de la semaine dans le monde de l'auto. Maître Rémi Jossomme sera là. L'essai de la semaine, Jean-Luc, ça sera la Hyundai i10 TGDI 100N Line.
C'est une petite citadine sportive. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. D'ailleurs, vous savez, tout ce qui était...
Mais des comme diesel.
Non, c'est pas diesel, hein, non.
Non, mais c'est bizarre. Moi, je vois un D dans une appellation de voiture, on dit qu'il y a du diesel.
C'est direct injection. C'est ça. Mais vous savez, ils aiment bien tout ce qui est asiatique, ils aiment bien vous rajouter 15 000 logos les uns derrière les autres plutôt que de l'appeler.
Ouais, mais ne pas mettre un D en ce moment, le D, c'est mal vu.
Hyundai i10 Sport, c'était quand même.
C'était bien.
Simple, hein,
exactement.
Tout le monde comprenait.
Et voilà, au moins, moi, tu sais que c'est du sport.
Voilà, mais là, bon.
On verra.
Faut décoder.
La question pas si bête, peut-on réparer sa voiture dans la rue?
Ah. Alors si c'est une Fuego, non.
Parce qu'elle est irréparable. C'est ça que vous alliez dire?
Non, même pas.
Bon, une campagne de communication douce et frappante de la prévention routière pour alerter des dangers du téléphone au volant. On en parlera tout à l'heure, ce sera notre rendez-vous sur le vif.
Ouais, ça change un peu. D'habitude, on essaye de vous faire peur pour vous empêcher de vous servir de votre téléphone au volant. C'est louable de vouloir empêcher les gens servir du téléphone
avec des campagnes choc parfois.
Exactement, mais avec des campagnes choc qui ont pas forcément, justement, qui sont pas forcément choc dans l'esprit des gens.
Ah, parfois ça peut marquer les gens. Aussi.
Voilà, mais là c'est un mode de communication
un peu différent. D'accord.
Et je trouve que c'est assez efficace.
Parfait. Et puis à l'occasion du lancement de la saison 6 de Vintage Mécanique, il sera là, François Alain, le présentateur de l'émission.
Ouais, ça commence cette semaine.
D'accord.
Voilà. Bon, alors c'est normal, on en parlera un petit peu avec François, on va le réveiller exprès.
Ah bah oui,
bah oui.
Ah quand même. Très bien. Voilà le menu, vous avez vu, c'est dense,
c'est riche, hein.
C'est costaud, on a plein de choses. Et puis le plus important, vous le savez à chaque fois, ce sont vos questions. 3 heures d'auto, c'est maintenant sur AMC. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on attaque avec Bernard qui est avec nous au 3216. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Bernard.
Bienvenue Bernard de la Loire.
Oui, tout près de Saint-Etienne, qui est dans une mauvaise situation pour le moment.
Ah, pareil, hein. Bienvenue au club, Bernard.
Ben oui.
Bon, Bernard, vous avez bien fait le couvre-feu, tout va bien?
Ah oui, bien sûr.
Ça a pas trop fait de fumée dans la maison?
Non,
parce que le fait de couvrir le feu, en fait, c'est ça, moi, j'ai fait un couvre-feu hier soir, j'ai mis une couverture sur le feu à 9h.
Est-ce que vous avez remarqué que Bernard a fait oula, et quand un auditeur dit oula, c'est pas forcément à votre avantage, Jean-Luc, c'est moi qui vous le dis. Alors Bernard, qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien, j'ai une Hyundai Kona, elle est électrique, version créative, 64 kW. Et en raison également de la situation sanitaire, je roule relativement peu, donc je fais 20 ou 30 km par jour. Et là, ma question est de savoir, puisque si j'ai un garage, donc je recharge la voiture dans le garage, s'il était judicieux de recharger chaque soir, de remettre la prise, et puis bon, ça se charge relativement rapidement, ou s'il valait mieux attendre que la batterie soit déchargée jusqu'à 50%, je sais pas, enfin. Et en règle générale, que fallait-il faire ou ne pas faire pour prolonger la vie de la batterie?
C'est une excellente question, Bernard. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et donc, la réponse, vous l'aurez à partir de la semaine prochaine. Non, je plaisante.
Vous plaisantez?
Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, je voudrais pas rester la semaine de
télé. Non, oui.
Bah, vous êtes en illimité, non? Vous avez un forfait limité.
Oui.
Donc, ça va, c'est pas grave.
Non, par contre, vous allez user
votre
téléphone.
Faut avoir de la batterie, quoi.
Mais là, ce que je vais vous dire, c'est valable aussi pour les téléphones portables. C'est valable pour tous les appareils qui ont des batteries lithium-ion. En fait, une batterie lithium-ion, au risque de me répéter, elle aime pas travailler entre 0 et 20% et entre 80 et 100%.
Ah voilà. Oui.
Il faut de temps en temps...
C'est capricieux quand même, hein, une lithium-ion.
Exactement. Enfin, c'est pas que c'est capricieux, ça n'aime pas la charge totale et ça n'aime pas surtout la décharge profonde. Donc, premier truc, jamais en dessous de 20%, sauf cas exceptionnel, genre, bon, vous devez rentrer chez vous et puis vous êtes bientôt à court de batterie, vous n'allez pas dormir en cours de route, vous rentrerez bien évidemment à la maison. Mais dans la mesure du possible, on n'attend pas que la batterie arrive à un niveau de 20% et surtout pas en dessous de 20% pour la recharger. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, recharger au-dessus de 80% de temps en temps seulement. Pourquoi il faut le faire de temps en temps? Parce que ça permet de rééquilibrer une charge à 100%, de rééquilibrer les cellules de batterie. Vous avez, en fait, une batterie, vous avez des cellules à l'intérieur et vous avez un système de refroidissement et un système de gestion de ces cellules. Le système de gestion de ces cellules, de temps en temps, vous savez, elles n'ont pas toutes exactement la même capacité, donc il a besoin de temps en temps de rééquilibrer en fonction, on va dire, de l'état de santé de chaque cellule. Donc, une charge de temps en temps, à 100%, c'est bien pour ça. Sinon, jamais au-delà de 80%. Sauf si, évidemment, vous avez besoin de l'autonomie totale. Alors, je ne sais pas quel type de trajet vous faites, Bernard. Vous avez mesuré un petit peu l'autonomie de votre Kona jusqu'à présent ?
Ah oui, je vois. Bon, j'ai pas eu l'occasion de faire de grands trajets puisque je devais partir en vacances et vu la situation, on a un petit peu renoncé à ça. Mais j'ai fait des trajets de 150, 200 km et je reviens et quand j'arrive, je fais 70%.
Hein. Ouais, d'accord. L'idéal, pour recharger une batterie lithium-ion, c'est valable pour votre téléphone portable, c'est entre 60 et 80%. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle du biberonnage, ce que fait François souvent, mais lui, il le fait avec de la vodka. Là, vous pouvez faire en chargeant votre batterie, c'est-à-dire vous avez effectivement fait 100 km, vous rechargez la batterie, mais vous limitez la charge à 80%.
D'accord.
Voilà. Donc vous avez tout intérêt. Dites-vous que ça va préserver vraiment la durée de vie de la batterie. Vous pouvez multiplier par deux la durée de vie d'une batterie si vous la chargez correctement.
Ah oui,
oui. Après, si vous la déchargez à zéro à chaque fois et que vous la rechargez à 100%, alors il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais autrefois, on nous disait qu'il fallait décharger complètement sa batterie pour la recharger. » Alors, c'était pas du tout la même technologie de batterie. Hein, c'était sur les batteries nickel-cadmium qui nécessitaient, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire l'effet mémoire, si vous déchargiez pas totalement la batterie, vous perdiez de la capacité petit à petit. Donc, il fallait décharger complètement la batterie pour la recharger à fond. Aujourd'hui, surtout pas. L'ennemi du lithium-ion, c'est la décharge complète et la charge totale. Donc, d'ailleurs, Tesla conseille à ses clients de ne jamais charger au-delà de 80%.
Ah ouais.
Je vous conseille de faire la même chose. Sauf le jour où vous avez besoin d'aller plus loin.
Oui, bien sûr.
Là, vous avez besoin de la charge totale. Là, vous chargez à 100%.
D'accord.
Bernard ?
Donc, ce n'est pas une bonne idée de rebrancher dès que j'arrive ?
Pas forcément. Vous regardez où vous en êtes. Si vous êtes à 70% ou 80%, ce n'est pas la peine de rebrancher, franchement.
Sauf si vous devez faire
un long trajet.
C'est 100% de
temps. Et surtout, vous devez pouvoir limiter la charge à 80%. Ça doit être programmable, je pense, sur votre véhicule.
Oui.
Alors faites-le. faites-le dès maintenant, faites-le. Et puis quand vous aurez besoin de plus, bah, vous enlèverez.
Mais Jean-Luc, vous nous avez toujours dit que finalement, il y avait même une marge quand on était à 100%.
Oui, bien sûr. Il y a la capacité totale et il y a la capacité utile. Le constructeur se ménage toujours une marge.
Mais cette marge ne suffit pas justement pour être tranquille.
Non, puisque là, je vous parle d'une marge de 20%, moi. Le constructeur, il n'a pas 20% de marge. Non, il n'y a pas 20% de marge. Ça veut dire qu'il faudrait traîner du poids en plus qui servira à rien pendant la durée de vie de la voiture.
Il y a quoi, 10% de marge?
Ça dépend. Aujourd'hui, on a de moins en moins parce qu'en fait, on se rend compte que les batteries, finalement, ont une durée de vie relativement importante. Donc, il y en a de moins en moins de marge. Mais vous avez, on va dire, entre 3 et 5% de marge sur les batteries.
Mais c'est un peu la marge, quoi. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Bernard, merci.
Merci à vous.
Et puis, à très bientôt.
Et je vous souhaite une bonne journée.
Mais merci aussi, Bernard, au revoir.
Et si tout comme Bernard, vous voulez joindre Jean-Luc Moreau avec une bonne question liée à l'auto ou à l'écosystème auto, hein, l'environnement auto, 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Ça existe encore les batteries nickel-cadmium? Non. Ça n'existe plus, ça,
en tout cas. Je pense que non. Alors, il y a peut-être des vieilles Saxo électriques qui roulent encore, ou des 106 électriques qui roulent encore avec
des batteries
nickel-cadmium.
D'accord. Peut-être des bébés aussi, bébés cadmium, mais je ne suis pas sûr.
Ah oui, d'accord. Non. C'est moi qui fais des blagues. Là, on n'a pas droit au petit coup de cymbale.
Kevin, vous voyez, Kevin, pour la première fois, Kevin envoie la météo tellement il est content, si vous voulez. Donc,
il se dit le mieux. C'est qu'on en reste là, quoi.
Kevin, avec sa table de mixage, il s'est dit, tiens, je vais envoyer un petit truc. Ah, c'est la météo. Zut, c'était pas ça que je voulais envoyer. C'était le roulement de tambour. Donc, il s'est dit, ah, c'est l'autre bouton. Paf. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire ça tout de suite. On va faire le bon plan sécurité, les amis. Merci, Gilles.
RMC, votre auto.
Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Excusez-moi, mais bébé cadmium, on a fait pire. Hein.
Oui, c'est vrai.
Désolé.
Bon, en même temps, il y a des gens qui comprennent sans doute pas. Les plus jeunes qui nous écoutent.
C'est vrai. Alors Jean-Luc, on va bientôt passer à l'heure d'hiver et donc beaucoup plus circuler de nuit.
Sauf si
on n'a pas d'autorisation.
Ben voilà. Il y a que 20 millions de Français finalement qui n'ont pas le droit de rouler la nuit. Et puis je vous signale quand même qu'à partir de 18h,
il commence à faire nuit.
Et puis avec le passage à l'heure d'hiver,
à partir
de 16h, il va faire nuit au mois de décembre.
Hein. Donc inutile de préciser que l'éclairage de nos voitures a une importance capitale dans ces conditions.
Et pas forcément à Paris.
Oui, capitale Paris, c'est ça.
Voilà.
Ouais. Ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'il a beaucoup progressé depuis ce début, cet éclairage.
Ben oui, au départ, souvenez-vous, quand vous étiez petit, les voitures, elles éclairaient la route avec des lampes à acétylène. Hein, voilà. Puis en 1912, heureusement pour vous, votre papa a acheté une Cadillac, puisque Cadillac avait introduit les phares électriques. C'était vraiment une révolution. Hein. En 1962, il y a eu les lampes halogènes, ce qu'on appelait les phares à iode. Vous vous souvenez? Ouais, elle a des phares à iode.
Les phares à iode.
C'est ça, voilà. En 1991, il y a eu les phares au xénon, puis les phares à LED, qui était plutôt joli d'ailleurs, le nom n'a rien à voir, et enfin, les phares laser, je suis ton père.
Alors, des phares laser, ça fait un peu justement, Jean-Luc, puisque vous l'imitez à la perfection, guerre des étoiles.
Alors, c'est pas de la science-fiction, hein. La première voiture qui a été équipée, c'était la BMW i8 en 2014, elle a été suivie de peu par l'Audi R8 LMX. Voilà, qui avait aussi des phares laser.
Alors, éclairage laser, comment ça marche?
Cette nouvelle techno fait appel à des diodes laser et à un micro-miroir qui bouge rapidement et qui redirige le faisceau laser. Les diodes laser sont particulièrement impressionnantes en raison de leur petite taille. Ça permet de faire des phares qui sont vraiment minuscules. Et puis, elles génèrent aussi un flux lumineux uniforme dont la brillance est 4 fois supérieure à celle d'une LED.
En gros, ça va permettre d'éclairer beaucoup mieux la route.
La portée des phares laser, c'est 600 mètres. C'est 2 fois plus qu'un projecteur à LED actuel. Mais le principal avantage, c'est sans doute qu'il s'agit d'un éclairage intelligent. Par exemple, lorsque le véhicule évolue à basse vitesse, la lumière est projetée sur une zone plus large afin d'éclairer la route sur un angle très ouvert. Et puis, plus la vitesse augmente, plus l'angle d'ouverture est restreint, tandis que l'intensité et la portée du faisceau sont augmentées.
C'est génial, on se croirait dans un vaisseau spatial.
Mais c'est exactement ça. Et vous savez, moi j'ai roulé avec, c'est impressionnant. On conduit en plein jour, incroyable.
Dingue. Ça ne risque pas d'éblouir les automobilistes, justement, qui viennent en face?
Au contraire, la distribution de la lumière se fait avec une grande précision. Ça signifie qu'on peut contrôler la clarté des différentes zones d'éclairage et, par exemple, diminuer ponctuellement l'intensité en direction du véhicule qui vient en face. Pour être plus clair, on peut rester en plein phare sans jamais éblouir celui qui vient en face.
Alors c'est génial, mais quand est-ce qu'on verra cette technologie sur toutes les voitures ?
Alors peut-être pas tout de suite, hein, même si les prix ont considérablement baissé. Sur les deux premières voitures que je vous ai citées, l'option, le coût du système, c'était environ 5 000 €. Donc c'était quand même assez cher. Aujourd'hui,
donné, ouais.
Ça a été divisé par 3, mais ça s'adresse toujours à des véhicules haut de gamme. On peut l'avoir en option sur certaines berlines allemandes haut de gamme d'ailleurs. Mais ça va, comme évidemment toutes les innovations comme ça, ça va petit à petit généraliser. Et c'est vrai.
Donc à terme, à votre avis, on aura tous, même sur des petites voitures, des fers laser.
Bien sûr. Regardez les feux à LED, c'est arrivé d'abord sur des véhicules haut de gamme. Aujourd'hui, pratiquement toutes les nouvelles voitures ont des phares qui éclairent avec des LED.
Très bien.
Et ça a un intérêt aussi pour les véhicules électriques, puisque la consommation, on n'en a pas parlé, mais la consommation électrique est beaucoup plus faible. Et là, pour le coup, ça permet d'accroître l'autonomie.
Jean-Luc, nous accueillons Jean-François qui est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour l'équipe.
Bonjour Jean-François.
Bonjour, bienvenue.
Eh bien, merci.
Vous nous appelez d'où Jean-François ?
J'appelle de la Gironde.
On cherche.
De Libournais, 5 millions.
Ah oui, oh bah ça c'est plutôt
ça
pas mal quand même. Ah bah je pense que ça parle beaucoup à Jean-Luc. Vous savez que vous êtes l'un des rares auditeurs qui va nous parler d'un Tipeee diesel, hein, quand même.
Eh ben oui. Alors je vous explique, j'ai actuellement un partenaire Tipeee diesel de 2011 que j'envisage de remplacer par un véhicule essence puisque maintenant je ne fais que guère que 8 à 9 000 km par an.
Mais pourquoi vous aviez besoin d'un véhicule aussi gros ? Parce que le partenaire Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Tipeee on sait ce que c'est, on imagine les Indiens avec les cow-boys tout ça, mais bon... C'est pas tout à fait ça. C'est
pour y mettre mes arcs et mes totems.
Oui, c'est ça. Mais c'est bon, ça reste un utilitaire.
Donc. On a un club de cyclotourisme.
D'accord.
Ah oui.
Donc vous mettez les vélos dedans derrière.
Ouais, okay. En France, et j'ai des vélos à mettre dans le coffre.
Ah bah oui. Donc là, ça a du sens.
Ça explique.
Voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui.
Et oui, bien sûr.
Ouais.
Alors, quelle était votre question, Jean-François, sur ce Tipeee ?
Donc, ma question, j'hésite entre un Rifter et un.
Un Picasso,
un
je pense.
Un essence et un Berlingo essence.
Ah, pardon.
Alors, je sais que c'est tout fabriqué par PSA, mais est-ce qu'il y a des différences mécaniques au niveau des moteurs, notamment ?
Ah bah, c'est les mêmes, hein.
C'est les mêmes. Au niveau fiabilité, ça ne change pas.
Mais je ne comprends pas, en fait. Vous me dites, je vais rouler beaucoup moins. Vous allez continuer à transporter des vélos ? Vous allez faire quoi ?
Oui. Oui, mais si vous voulez, avant, je travaillais.
D'accord.
Donc, je faisais...
Mais quand vous transportez vos vélos, vous les transportez loin ou vous les transportez loin, vos vélos ?
Toute la France.
Pourquoi vous ne conservez pas de votre Tipeee ?
Parce que je vous dis, je ne fais que 5000 km par an maintenant.
Mais si vous faites des grands trajets avec des vélos dedans, vous avez besoin d'un grand véhicule. Parce que si vous prenez un C4 Picasso, c'est quand même beaucoup moins grand. Les vélos debout, dedans, derrière, je ne sais même pas si ça passe en hauteur. Il faudra démonter la roue.
Ça va être
quand même moins pratique.
Vous faites bugger Jean-François, Jean-Luc.
Bah oui, parce que alors il y a d'accord.
Il était tout content avec
vous roulez moins,
son Berlingo et là pas vous arrivez, vous lui sortez non, garde ton Tipeee mon gars.
Mais quand je vous écoute, le diesel maintenant c'est has-been et puis gens qui font peu de kilomètres.
On est d'accord.
Il y a des villes qui interdisent maintenant plus ou moins l'accès au.
Ouais, mais regardez, dans votre usage, vous me dites on va loin, on met des vélos dedans. Donc grosse voiture. L'utilitaire là, très très bien. Bon, vous allez pas faire du vélo en ville. Vous prenez vos vélos de la campagne pour les emmener.
Ah bah mon vélo.
Beaucoup moins bien marché.
Quelquefois nos manifestations partent de certaines villes.
Ouais, mais avant que vous ayez plus le droit de circuler avec votre Tipeee en plein centre-ville, ça va prendre un petit moment. Vous n'êtes pas à Grenoble et vous n'êtes pas à Paris. Les deux villes les plus extrêmes en la matière.
Ouais.
Vous viendrez pas.
Grenoble aussi, on y va puisque. On a des manifestations cyclotouristes là-bas dans les Alpes, qui partent de Grenoble. Justement.
Qui partent de Grenoble.
Eh oui.
Ouais. Vous laisserez les vélos, vous arrêterez le camion à l'entrée de Grenoble et puis vous continuerez à vélo. Non. Moi, je vous conseille plutôt. Il a combien de kilomètres votre engin ?
117 000.
Ouais, ça va, il est rodé, c'est bien. Franchement, là, vous voulez changer pour un truc qui va être moins pratique. Rouler à l'essence, vous me dites que vous faites des grands trajets. En plus, si vous faites des grands trajets, du diesel, ça a encore du sens.
Ouais.
Écoutez, on vous fait économiser de l'argent. Ce que vous aviez prévu de dépenser, vous donnez moitié à François, moitié à moi. Et puis
d'accord.
Voilà.
Ok, vous me faites.
Ou alors vous payez Jean-Luc en Saint-Émilion, il crachera pas dessus, hein, croyez-moi.
Ouais,
hein.
Ouais, mais ouais.
Si vous avez du cheval blanc qui traîne, allez, je suis preneur.
Du cheval blanc.
Ouais, d'accord. Oui. Mais à consommer avec modération.
Ah, bah, toujours.
Bah, voilà,
ouais. Compte, il faut que ce soit les auditeurs qui le disent. C'est quand même incroyable, c'est quoi. Terrible. Franchement, c'est terrible. On oublie même nous qu'il faut dire à consommer avec modération. C'est Jean-François qui dit attention.
Attention, consommer avec modération, quand même.
Bon, Jean-François, voilà.
Bah, il faut garder le typique. Bah ouais, moi je vous conseille plutôt de le garder. Hein. Changer pour changer, franchement.
C'est ça.
Surtout là, c'est le côté, on met les vélos dedans.
Ben oui.
S'il faut les démonter pour les mettre dedans.
C'est pas pratique.
Misère.
Jean-François nous a appelé au 3216. Vous pouvez, tout comme Jean-François, poser votre question dès maintenant.
C'est gratuit, hein, je précise.
C'est
quand
gratuit.
Même. Bah oui, évidemment.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Bon, c'est normal, non?
Allez, on revient dans un instant sur RMC. On s'amuse bien ce matin, hein, vous avez vu, hein, c'est. On se croirait sur Rire et Chanson un peu. Mais enfin, c'est Rire et Chanson auto. C'est un peu les trois. 32-16 pour toutes vos questions. L'appli RMC Direct Studio. Oui, pardon.
Bah, RMC, c'est Rire moins Chanson, non?
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
C'est 7h32, le retour de ce week-end des experts. Et c'est l'automobile jusqu'à 10h avec Jean-Luc. Vos questions auto 32-16. Dans un instant, on retrouvera notre minute verte. On va parler du GPL qui était un peu le vilain petit canard en termes de carburant.
Qui a toujours été. C'est le vilain canard qui devient un cygne, qui se transforme en gros vilain canard.
Voilà, le Dr Jekyll et Mr Hyde du carburant. Mais visiblement, là, il est plutôt sur la pente ascendante.
Ah bah, vous avez raison. Quand je vous donnerai tout à l'heure les chiffres d'augmentation de vente du GPL, vous allez voir, c'est un truc de.
C'est dans quelques instants.
Plus 445%.
Vous vous rendez compte?
Ah, j'aimerais que sur ma feuille de paye, ce soit ça également.
445% en plus ?
Oui.
Ah, vous seriez. De toute façon, comme vous êtes bénévole, ça ne change pas grand-chose.
Hein. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
C'est vrai. Allez, on enchaîne avec vos questions. À 7h33, on accueille Simon tout de suite. Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Bonjour Simon.
Bienvenue Simon sur AMC.
Merci.
Et j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans le Calvados.
Oui, c'est ça.
Ah bah, ce matin, on fait la tournée des
bars. Hein.
Ouais, on était à Saint-Émilion, on est dans le Calvados.
La tournée des bars, c'est virtuel en ce moment, hein, quand même. Hein.
C'est vrai. Ça dépend, hein, dans le Calvados.
Oui, dans le Calvados,
on a sans doute le droit de sortir le soir.
On peut y aller, je pense. Alors, Simon, vous êtes bien réveillé ?
Oui, parfaitement.
J'ai l'impression que non, quand même. Excusez-moi d'être. Quand vous dites parfaitement, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré.
Non, ça va, tout va bien.
Ça va?
Ouais.
Bon, très bien.
Donc vous avez alors...
Qu'est-ce qui vous arrive?
Parce que vous avez plein d'enfants. C'est pour ça que vous dormez mal, en fait.
Oh non, ça va. Ils ont le sommeil assez lourd, donc j'ai de la chance.
Ouais. Alors, quatre enfants. Et c'est pour ça que vous nous appelez. Parce que vous voulez changer de voiture, parce que vous avez quatre enfants.
On peut peut-être laisser Simon expliquer la question.
Ouais.
Ou alors, si vous voulez, vous posez la question
à la place.
Je vous
pose la question. Alors, Simon.
Allez-y, Simon.
Oui, donc je vais bientôt être papa d'un quatrième enfant. Jusque-là, j'ai une 308 comme j'avais acheté sur les conseils de Jean-Luc et une 5008 pareil. Donc j'aimerais changer la 308 en échange d'une voiture qui aurait au moins 6 places. Donc j'avais pensé à plusieurs modèles, mais comme c'est des modèles que je ne connais absolument pas, tant au niveau de la motorisation que au niveau de l'utilisation, tout ça, j'avais vraiment besoin des lumières de Jean-Luc, s'il vous plaît.
Alors, vous voulez un gros truc?
Donc il vous faut une voiture pour 6, c'est ça?
Oui, voilà, 6, oui.
Alors, parce qu'il y a des voitures qui sont pour même jusqu'à 7, mais vous mettez 7 personnes, mais rien d'autre, quoi. Vous mettez un sac à main derrière.
Le deuxième impératif, je sais pas si vous avez déjà vu les sièges auto de dernière génération.
C'est de pouvoir mettre 3 sièges sur la. Ouais, puis voilà, si vous avez 4 enfants, c'est même au-delà de ça, c'est de mettre. Ils ont quel âge d'ailleurs? Ça va de quel âge à quel âge?
Alors le plus vieux a 5 ans et le dernier pas encore. Mais...
D'accord. Voilà. Oui, donc c'est obligatoirement siège bébé pour tout le monde. Donc ça veut dire.
Oui, voilà. Il faut. Idéalement isofix.
Et voilà.
Donc il faut 4.
Voilà. Donc ça veut dire. Ah oui. Ça veut dire pas de monospace ou de SUV avec 2 places supplémentaires dans le coffre parce qu'on peut pas.
Non, il faut 4 vraies places.
Donc il faut un vrai gros véhicule. Voilà.
Voilà, donc, c'est ça, oui.
Voilà. On avait un auditeur avant, c'est bête, parce qu'il avait un Tipeee.
Il aurait pu vous fourguer
le Tipeee. Mais non, mais il va le garder. Hein, on lui a conseillé de le garder. Il y a, dans la catégorie, vous avez, Citroën, Peugeot, Toyota qui propose à une petite triplette, c'est le Toyota, c'est le Space Tourer. Qui s'appelle aussi Pro As chez Toyota et qui s'appelle Traveler chez Peugeot. L'avantage, c'est que il est disponible en trois longueurs. Alors c'est pas le même en trois longueurs, on le rallonge pas, hein. Et vous avez 3,60 de long en 5 places ou 4,95 ou 5,30. Alors 4,95 en 8 places ou 5,30 en 8 places. Donc 4,95 pour vous, ce serait bien, quoique 4,60 m, c'est déjà pas mal, mais c'est 5 places, donc ça suffira pas. Donc le 4,95 en 8 places, qui est disponible avec plein de motorisations différentes, bon, ça sera du diesel ou du diesel.
8 places, et on a un peu de coffre quand même, ou pas?
Mais oui. Ah oui. Alors quand vous êtes sur le, ils appellent médium. En fait, vous avez le court, médium et XL. Et quand vous êtes sur le médium, même avec la troisième rangée de sièges, vous avez encore 603 litres de coffre.
Oui, donc c'est
donc
bien.
Là, pour le coup, vous pouvez mettre, si vous avez un couffin à transporter, des choses comme ça, vous pouvez quand même le mettre dans le coffre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si la base est un utilitaire, c'est un utilitaire moderne qui est construit sur la même plateforme MP2 que le C4 Picasso ou les Peugeot 3008. Donc c'est une base moderne, donc c'est un véhicule qui est confortable. Voilà, on n'est pas dans un utilitaire à l'ancienne. C'est même plutôt agréable à conduire. Et on trouve, alors après ça dépend de votre budget, c'est pareil, mais on trouve des modèles. Alors en fonction que je vous ai dit, il y a plusieurs motorisations. Hein, ça démarre en litre 6 HDI 95 chevaux ou 115 chevaux. Ensuite vous avez du 2 litres HDI qui va de 150 à 180 chevaux. Ça sera bien évidemment, j'imagine, un véhicule d'occasion. Vous avez quoi comme budget, Simon?
C'est aussi pour ça que je vous appelle, parce que entre les contraintes de la fiabilité et puis les quatre places, tout ça, je me demandais, c'était soit est-ce que j'essayais d'avoir ce genre de véhicule Traveler Space Tourer qui vont de toute façon à moins de 30 000, on n'a pas grand chose.
Bah si, on trouve hein, aux alentours de 25 000, on trouve des modèles avec pas trop de kilomètres, mais ça va être on va dire les 60, entre 70
mais quel est,
et,
quel est votre
et, 100,
budget, Simon,
et 130 000 kilomètres, quoi.
Quel est votre budget? Ça sera peut-être plus simple.
La question que je me pose, c'est est-ce que j'essaie de choper vraiment une vieille occasion? Alors du coup, pas du tout dans cette marque-là, plutôt les vieux Mercedes Vito, les vieux...
Alors un Vito, c'est moins confortable.
D'accord.
Un Vito, c'est plus raide. Hein. Quand vous êtes assis derrière, un Vito, franchement, pour faire de la route, c'est moins bien. C'est moins bien. Bon, c'est vrai que là, par contre, vous trouverez des occasions à des prix, mais ils vont avoir 100 milliards de kilomètres. On trouve, même en dessous de 20 000 euros, on en trouve hein, du Traveler ou du Space Tourer.
Et quelle motorisation vous me conseilleriez, s'il vous plaît?
Alors moi, dans l'idéal, je vous conseillerais plutôt le 180 chevaux avec la boîte automatique AT6. Après, c'est une question de budget. Hein, parce que le truc, c'est que c'est quand même un gros véhicule. Vous allez rouler chargé, donc là c'est plus pour avoir un peu de reprise si vous avez besoin de dépasser. C'est de la sécurité, c'est pas pour les performances. D'autant que il consomme pas plus, le 2 litres en 180 consomme pas plus que le 150 chevaux. Vous en trouverez. Alors c'est des moteurs fiables, donc même à 150 000 km,
on peut y aller.
Voilà, vous pouvez y aller.
Merci Simon. Allez, 8h-20, on enchaîne avec la minute verte.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et alors, on va parler du GPL. Pourquoi? Parce que les ventes de véhicules GPL, Jean-Luc, les véhicules GPL neufs, sont en très nette hausse.
On pourrait même dire les ventes de véhicules GPL explosent.
Oui.
Hein, voilà.
Ouais. Alors, je ne sais pas si ça fera plaisir à notre invité au téléphone, mais bon, c'est pas sûr.
Ouais, bonjour Joël Petsac, vous êtes directeur général du comité français du butane propane.
Vous savez que c'est des mots interdits chez eux, ça.
Oui, c'est vrai. Bon, alors, je vais refaire ma blague que
bonjour,
j'avais fait au lancement, on va dire. Ça gaze pour le GPL, alors.
Oui,
elle est mieux celle-là.
J'adore votre humour le dimanche matin à 7h30.
Ouais, ouais, bah vous êtes bien aimable, Joël. On voit que vous êtes très urbain, parce que franchement, parfois des auditeurs...
Non, mais alors, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, plus 445% depuis le début de l'année, c'est juste... C'est dingue. Comment on peut expliquer ça?
Bah, je pense que c'est... Il y a une seule raison, c'est qu'il y a le groupe Renault Dacia qui est revenu en force sur le GPL. Il était, alors moi je représente les distributeurs du GPL, hein, pas les constructeurs.
Oui, pas les constructeurs, évidemment. Oui.
Voilà, donc les services qui distribuent du GPL, qui sont les entreprises que je représente. Donc le groupe Renault est revenu en force sur le GPL. Il l'était déjà en 2008 quand le Venus avait été.
Joël, ça coupe un peu. Il faudrait que vous vous mettiez. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur. Je ne sais pas si vous êtes sur ampli, mais il faudrait arrêter l'ampli et vous rapprocher d'une fenêtre, si c'est possible.
Voilà.
Voilà, parce que à la radio, vous savez, bon. Si ça coupe, c'est pas terrible.
Oui, j'avais mis effectivement. Donc en fait, le groupe Renault est revenu en force et c'est grâce à l'offre de Renault Dacia que ces ventes se sont envolées avec des véhicules GPL au prix des véhicules essence. C'est-à-dire que c'est
il n'y a pas de surcoût. Ça représente quoi d'ailleurs dans la gamme Dacia les GPL aujourd'hui en pourcentage des ventes?
Alors c'est presque, alors suivant les modèles, mais c'est entre 20 et 25% des ventes de véhicules qui sont vendus en GPL. Toute la gamme Dacia existe avec une version GPL. Sur Renault, c'est plutôt les entrées de gamme avec les Clio Capture. Donc le décollage des ventes, cette année 2020 qui est quand même un petit peu particulière.
Vous frottez les mains. Alors, j'ai un chiffre sous le nez là qui est juste hallucinant. Sur le mois de septembre, les ventes de véhicules GPL ont augmenté de 6446%.
Oui, mais enfin bon.
On part de zéro, ça explose.
On part de rien, donc il faut pondérer. Donc en fait, bon, ça part très fort cette année, et en plus, ça va sûrement accélérer parce que Dacia a lancé ses nouveaux modèles avec les nouvelles motorisations toute la presse a l'air d'être assez enthousiaste. Pour les consommateurs, c'est donc des véhicules neufs à moins de 10 000 euros. Qui fonctionnent à l'usage avec ce carburant GPL, qui est moins polluant, qui est moins cher.
Bon, qui a pas mal d'atouts. Il est à combien aujourd'hui d'ailleurs le 84 centimes.
Voilà, autour de 85 centimes le litre. Ce qui fait que quand vous roulez au gaz plutôt qu'à l'essence avec ces véhicules qui sont bicarburants, ça vous coûte à peu près 20-25% moins cher qu'à l'essence. Les cartes grises sont gratuites. Il y a 1650 stations en France, 35 000 en Europe. Donc en fait, c'est un carburant alternatif qui a pas mal d'atouts.
D'accord. Et puis, on bénéficie de la vignette critère 1. Et c'est vrai que dans de nombreuses villes aujourd'hui qui restreignent l'accès des véhicules au centre-ville, ça peut avoir un intérêt aussi.
Alors, critère 1, effectivement, c'est la particularité des véhicules gaz, comme les hybrides rechargeables d'ailleurs, c'est qu'ils bénéficient des critères 1, quelle que soit leur année d'immatriculation. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule d'occasion GPL qui a 10 ans, il aura toujours cette vignette critère 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le budget d'acheter un véhicule neuf. Et pour les gens qui habitent dans des agglomérations où été installées des zones à faible émission, donc les fameuses ZFE, qui donnent accès qu'à des véhicules à faible émission, vous n'avez pas besoin de très gros budgets pour pouvoir, si vous avez absolument besoin d'une voiture, pour pouvoir y aller.
Il y a des avantages pour les professionnels sur le GPL?
Alors, il y a des avantages. Aujourd'hui, l'offre des constructeurs est surtout orientée sur les véhicules de passagers, enfin, pas les véhicules.
Oui, pour les particuliers. Mais, d'ailleurs, Dacia vont principalement aux particuliers.
Voilà, mais bon, pour une entreprise qui a des commerciaux ou qui a besoin de petits véhicules jusqu'aux captures, donc c'est la TVA qui est récupérable sur le gaz, comme ça l'était d'ailleurs sur le diesel. C'est la taxe véhicule société qui est la taxe que payent chaque année les entreprises pour l'utilisation de véhicules qui est gratuite les deux premières années.
Je rappelle qu'il y a la carte grise qui est gratuite, mais là, c'est les entreprises et les particuliers. Donc, il y a tout un arsenal qui est fiscal avantageux pour les entreprises, pour tous les énergies alternatives, hein, comme l'électricité, le GNV ou le GPL d'ailleurs.
Est-ce que vous avez de la visibilité sur les nouveaux produits qui vont être développés au GPL? Bon, parce que là, c'est principalement le groupe Renault. C'est un modèle chez Renault, on est d'accord, hein, c'est le alors, Captur, et puis toute la gamme, et la Clio, pardon, deux modèles chez Renault, et toute la gamme Dacia. Est-ce que la nouvelle Sandero qui va arriver sera aussi proposée avec ces motorisations-là, vous le savez?
Alors, la nouvelle Sandero, oui, puisqu'elle a été présentée.
Oui.
Donc, elle est bien sûr en modèle, enfin, la version EcoG. Je crois qu'il faut comprendre que sur ces modèles qui représentent des gros volumes pour un constructeur comme Renault, c'est une façon de répondre aux objectifs européens de baisse des émissions de CO2. Et un véhicule GPL émet moins de CO2 qu'un véhicule essence, même moins de CO2 qu'un véhicule diesel. Alors, c'est pas comme un véhicule électrique, mais c'est pas non plus au même prix qu'un véhicule électrique. C'est moins de 10 000 euros, un véhicule GPL.
Joël, merci pour toutes ces précisions.
Merci, Joël.
Voilà, le retour du GPL. Donc, et c'est plutôt bien. 7h47, on revient dans un instant sur RMC. Jean-Paul sera là. Il aimerait passer sa 3008 à l'éthanol. Et il aimerait bien avoir vos conseils. N'hésitez pas, vous pouvez à tout moment nous joindre pour poser votre question à Jean-Luc Moreau. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre week-end des experts sur AMC, l'automobile, on est là jusqu'à 10h. Dans quelques minutes, la météo, les infos, mais dans l'immédiat, on repart avec vos questions. Jean-Paul nous attend au 32-16. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bienvenue,
bonjour, merci. Bonjour Jean-Paul.
Merci bien pour prendre ma question. Enfin, j'ai deux questions en réalité, deux petites questions.
Alors, allez-y, commencez.
Alors, la 3008 de 2018, pour la passer à l'éthanol, est-ce qu'il y a un inconvénient?
Alors, quel moteur?
C'est un litis.
Un litis, d'accord. Combien de kilomètres, vous m'avez dit? Vous ne l'avez pas dit, d'ailleurs.
30 000.
Bon, a priori, pas de souci. Vous voulez la passer à l'éthanol avec un boîtier, on est bien d'accord?
Pas forcément. La question, c'était reprogrammation. Reprogrammation boîtier.
Bah oui. Vous prenez un risque, hein. Prenez un risque parce que reprogrammation, ça veut dire pas de garantie. Au moins, quand vous installez un boîtier homologué, vous avez la garantie qui vous est donnée par le fabricant du boîtier. C'est-à-dire que tout ce qui est mécanique en lien avec le carburant sera pris en garantie par le fabricant du boîtier. Si vous faites faire une reprogrammation et que votre voiture tombe en panne en roulant à l'éthanol, ça sera pour vos pieds, hein, parce que là, ça servira à rien d'aller voir Peugeot en disant « Ah, mais hein, ma voiture, elle marche plus ». Ils vous diront « Bon, vous êtes gentil, vous avez fait une reprogrammation pour rouler à l'éthanol, donc vous perdez tout bénéfice de la garantie ». Alors, ce qu'on appelle la garantie commerciale, qui pour vous, il est 2018, donc elle se termine, la garantie commerciale, mais aussi ce qu'on appelle la garantie des vis cachées, qui court encore jusqu'à 5 ans. Et qui vous permettrait, en cas de défaut technique, de pouvoir réclamer une participation du constructeur. Là, vous ne pourrez pas.
Donc, et le boîtier?
Et en plus, alors, surtout, j'ai pas fini, la reprogrammation, si vous avez un gros carton un jour et qu'on se penche un petit peu sur votre véhicule de plus près et qu'on se rend compte qu'il y a une reprogrammation, votre assureur vous dira, attendez, moi j'ai pas assuré ce véhicule-là. Donc, il est possible que l'indemnisation soit très réduite et que vous soyez obligé de payer de votre poche si vous avez blessé quelqu'un. Enfin, voyez, ça peut. Franchement, c'est vraiment un risque qu'il faut pas prendre. D'accord, il est possible aussi avec une reprogrammation qu'au moment du passage au contrôle technique, on vous dise ah bah non. Hein. Donc le boîtier alors nécessite de refaire une carte grise. Bon, qui coûte un cheval fiscal. Donc ça va, c'est pas cher. Et vous permettra au moment où vous vendrez la voiture de vendre un véhicule qui roulera à l'éthanol en toute légalité et qui aura une carte grise gratuite pour le coup pour le prochain acheteur. Donc c'est un argument commercial aussi qui peut compter.
D'accord.
Donc plutôt un boîtier, hein. Plutôt un boîtier non, et a priori le 1 litre 6, il accepte sans trop de problèmes les boîtiers homologués sur le marché aujourd'hui. Je sais pas combien. Je crois qu'il y a 5 fabricants qui font des boîtiers homologués.
Et apparemment, l'éthanol serait assez agressif. Donc, pour pallier aux problèmes, à ces problèmes-là, Donc, qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, il est pas l'éthanol en lui-même est pas agressif. Le problème qui peut se poser avec l'éthanol, c'est qu'il absorbe l'humidité. Quand vous buvez un pastis, on voit bien que ça se mélange facilement l'eau et l'alcool. Donc, l'éthanol, tiens. Typiquement, celui qui roule pas beaucoup et qui roule à l'éthanol, son carburant, s'il laisse le réservoir presque vide à des saisons où il y a des inversions de température, va y avoir de la condensation dans le réservoir, donc de l'eau, et l'eau se mélange à l'éthanol. Et l'éthanol qui va transporter l'eau, bon, ça peut provoquer de la corrosion. C'est pas très bon pour le moteur. Et puis, ça peut créer aussi ce qu'on appelle de l'acide formique, qui là est destructeur pour le moteur. Donc, il faut être prudent quand on roule à l'éthanol, c'est-à-dire au maximum être toujours réservoir plein, ne pas laisser la voiture longtemps s'en tourner quand on roule à l'éthanol, principalement si elle est garée dans un endroit humide. Et l'idéal, c'est de temps en temps, c'est vrai que l'éthanol, bon, c'est de l'alcool. On voit bien qu'on a tous on a vu les produits vitres, ça dégraisse parfaitement. Donc, ce qu'il faut de temps en temps pour aider les injecteurs à fonctionner, puisqu'ils sont pas prévus dès le départ pour ça, c'est leur mettre. Alors il y a aujourd'hui plein de fabricants d'additifs qui proposent des additifs qu'on rajoute dans le carburant une fois de temps en temps pour aider justement les injecteurs et leur permettre d'être relubrifiés et de fonctionner dans des d'accord, circonstances un petit peu meilleures.
J'ai écouté l'émission précédente là, concernant le GPL, donc est-ce qu'il serait préférable de passer à l'éthanol ou alors de transformer en GPL le véhicule?
C'est beaucoup plus lourd de faire une deuxième monte en GPL, voilà, parce que vous êtes obligé d'installer un réservoir supplémentaire, un système d'alimentation en GPL dédié. En fait, c'est deux systèmes de carburation complètement différents. L'avantage de l'éthanol, c'est que vous conservez la même chaîne d'alimentation.
Il suffit de rajouter un boîtier électronique.
C'est juste un boîtier électronique qu'on rajoute. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Jean-Paul, merci. Allez, avant de retrouver la météo et les infos de 8h, l'actualité dans le monde de l'auto, Jean-Luc, et il n'y aura finalement pas de hausse de la taxe sur le SP95.
Ouais, même le super samplon 95 E10, faut le dire. Les automobilistes de la filière éthanol française peuvent souffler et dire merci au ministre de l'économie. Il n'y aura pas, cette fois, de hausse de la taxe sur le super samplon 95 E10, alors que celle-ci avait été inscrite dans le projet de loi de finances 2021. C'est Bruno Le Maire en personne qui a annoncé qu'il n'y aura aucun changement sur la fiscalité du samplon 95 avec 10% d'éthanol. Le locataire de Bercy a expliqué que la hausse de la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques sur cette essence, allait à l'encontre du choix de l'exécutif de ne pas augmenter les impôts et les taxes des Français. L'annonce du relèvement de la TICPE sur le SP95-10 avait provoqué une levée de boucliers auprès des nombreuses associations et autres professionnels du secteur automobile, lesquels avaient rappelé l'engagement de l'État de ne pas augmenter la fiscalité sur les carburants au lendemain de la crise sociale des gilets jaunes qui était née de la flambée des prix des carburants à la pompe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était d'autant plus malheureux que le super samplon 95-10 est l'essence la plus vendue en France et surtout la plus écologique. On aurait retaxé encore un peu plus un carburant plus écologique.
Jean-Luc, Bruxelles va expérimenter son premier péage urbain.
Ouais, la région de Bruxelles va mettre en place les premiers tests d'un péage urbain pour accéder à la capitale belge dans les mois à venir. Selon certaines sources, il pourrait en coûter jusqu'à, tenez-vous bien, 2500 euros par an aux navetteurs qui doivent se rendre régulièrement dans la cité belge. Ah oui. La capitale belge emboîte ainsi le pas à Londres, qui avait déjà mis en place un tel système en 2003. Mais en Belgique, évidemment, le débat fait rage depuis près de 8 ans. Mais cette fois, le projet va véritablement voir le jour et devrait devenir très rapidement rentable. On se doute, à 2500 euros par an. Pour l'heure, les tarifs d'accès en voiture à la ville n'ont pas encore été rendus officiels, mais la fourchette ciblée est large entre 3 et 12 euros. 3 euros étant le seuil minimum pour la rentabilité. La note pourrait s'avérer salée pour nombre d'automobilistes se rendant régulièrement dans le cœur de Bruxelles dans l'hypothèse d'un contrôle fort. 246 postes fixes et 20 postes amovibles, 18 véhicules de contrôle. Tout ça pour vous empêcher de rouler si vous n'avez pas payé, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Je pense que le projet est quelque part dans un tiroir à Paris.
Oui, chez Amidel. Évidemment. Ça, c'est clair. Jean-Luc Monroux, il est bientôt 8h. La météo, les infos. Et on revient pour notre deuxième heure dédiée à l'auto avec, bien sûr, vos questions. Maître Rémi Jossomme sera là, l'essai de la semaine. Et plein d'autres bonnes choses. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.